Amen. Est-ce qu'on peut accueillir notre invité ce matin, pasteur David Martin? Amen.
Ça va bien? Amen. Content d'être ici aujourd'hui. Et puis, amen, on ressentait vraiment la présence du Seigneur dans la louange ce matin, n'est-ce pas? Amen. Wow, que Seigneur, le Seigneur est présent, c'est tellement bénissant. Gloire au Seigneur, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est David Martin et puis je suis originaire d'Edmundston, vous connaissez ça? Pas trop loin d'ici, j'ai grandi dans cette région-là et puis mon épouse vient de la région de Kimbolton, on a été pasteur dans la région de Beresford et puis aussi dans la région de Moncton au Nouveau-Brunswick. Et voilà, je suis marié avec Nathalie. Nathalie, elle n'est pas ici ce matin. Nathalie, elle est pasteur d'une église, elle aussi, sur la rive sud de Montréal. Et donc, elle s'occupe de l'église ce matin. Et puis aussi, nous avons trois jeunes enfants, dont Talita qui a 11 ans, et puis David-Étienne qui a 8 ans, et puis Caleb qui a 5 ans. Donc, ça brasse chez nous. Mais je parlais avec Israël ce matin, il disait qu'il y en avait 9, là, je me suis senti, ah ben finalement, c'est pas si pire que ça, hein? On survit. Amen. Et puis, voilà, donc mon rôle actuellement, je suis le doyen académique de l'Institut biblique du Québec. Et voilà, l'Institut, vous connaissez l'IBQ? Si vous ne connaissez pas l'IBQ, ben hier, on a eu la chance de faire un mini-cours ensemble pour ceux qui étaient là. Si vous étiez là, levez la main. Voilà, on a eu un super de bon temps hier. Il y avait 40-45 personnes qui étaient là. Et puis, on a vraiment dévoré la parole de Dieu ensemble. Je vais changer de micro.
M'ont amarré parce qu'ils ne voulaient pas que je me sauve.
Voilà, donc je disais, l'Institut biblique, hier on a eu un mini-cours juste pour donner aux gens un aperçu de qu'est-ce qu'on fait à l'IBQ. Peut-être vous demandez c'est quoi l'IBQ. En fait, l'IBQ, c'est l'école biblique, l'école de formation au ministère pour les assemblées de la Pentecôte du Canada, le côté francophone. Et puis donc, cette église étant affiliée aux APDC, ça veut dire que nous sommes votre école. Nous sommes votre école et puis notre rôle, c'est de former des gens dans cette église, les former pour le ministère, les former dans la parole et nous sommes réellement là pour vous servir. Et puis, nous avons différents types de formations à l'IBQ. Et puis, voilà, donc nous offrons le baccalauréat en théologie. Nous avons aussi le programme de certificat en théologie aussi que vous pouvez suivre avec nous. On a aussi des micro-programmes. On a, par exemple, un micro-programme en accompagnement spirituel. C'est 4 cours seulement. Donc, si vous avez à cœur, peut-être vous dites, ben, moi, j'aimerais ça faire plus comme la relation d'aide, d'aider les gens individuellement. On a ça aussi. L'IBQ est fier d'être en partenariat avec l'Université Laval. Ça veut dire qu'en fait, que lorsque vous étudiez avec nous, vous étudiez avec les deux établissements en même temps, de sorte que lorsque vous graduez avec les deux établissements. Et puis, voilà, donc, on a aussi, les gens me demandent, mais à Rimouski, j'ai-tu besoin de monter à Montréal pour les formations? Non, nos formations sont disponibles aussi en ligne. Donc, vous pouvez les suivre du confort de votre salon chez vous. Et puis, donc, chacune de ces formations sont vraiment très pertinentes. Si vraiment vous avez beaucoup de questions concernant la Bible, si vous voulez savoir aussi comment faire le ministère, vous allez vraiment découvrir des pépites d'or qui sont vraiment très, très pertinentes. Et puis, justement, on a quelque chose de spécial qui s'en vient. Je ne sais pas si on peut avancer. On a un mini-cours spécial qui s'en vient sur l'Évangile de Jean. Et puis, voilà, donc c'est complètement en ligne. Donc, c'est gratuit. Si jamais vous voulez, en fait, goûter c'est quoi un cours de l'EBQ, tu dis, moi, je ne suis pas trop certain si c'est pour moi, bien, venez l'essayer. Et puis, justement, le 1er juin, OK, donc on a un cours sur l'Évangile de juin qui s'appelle « À la rencontre de Jésus ». Ça dure 2 heures. Donc, voilà, tous les détails sont là. Samedi 1er juin de 19h à 21h. Vous vous connectez sur Zoom tout simplement et vous pouvez suivre le cours. Donc, je vous encourage à vous inscrire ce matin. Vous pouvez scanner le code QR qui est là, vous inscrire avec vos téléphones. Ça va vous prendre 30 secondes. Ou sinon, j'ai des formulaires en papier sur mon kiosque derrière. Vous avez juste passé, venir me voir après la réunion. Vous remplissez ce petit formulaire-là et c'est tout ce que vous avez besoin de faire. Ça ne coûte absolument rien. Donc, manquez pas ça. La dernière fois qu'on a fait ça, on avait 100 participants en ligne. Ça a été vraiment génial. Donc, je vous encourage à ne pas manquer ça. Donc, voilà, l'IBQ est là pour vous servir. Et puis, vraiment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir après la réunion. Amen. Je vous invite à prendre votre Bible, à tourner avec moi dans Marc chapitre 1. Et puis, vous savez, on a eu une super de belle journée hier, en séminaire en matinée, séminaire en après-midi. Et puis, pendant la prédication aujourd'hui, je vais un peu rassembler tout ça. Puis, je vais répéter certaines choses aussi pour faire sûr qu'ils ont été bien comprises. Puis, mais on va ajouter un peu, on va construire des applications aussi sur qu'est-ce qu'on a appris hier. Donc, dans Marc chapitre 1, verset 29, je vous invite à vous lever avec moi pour la lecture de la parole de Dieu. Donc, ça dit, en sortant de la synagogue, donc Marc 1, 29, en sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre. Et aussitôt, on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main, et à l'instant, la fièvre la quitta. Puis, elle les servit. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques, et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassait aussi beaucoup de démons. Il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'ils le connaissaient. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Oui, Seigneur Dieu, je te prie que tu puisses nous diriger, Seigneur Dieu, ouvrir nos yeux, Père, afin qu'on puisse voir ce que tu veux nous montrer, Jésus, Père. Amen. Amen. Le titre de mon message ce matin, c'est « Reconnaissance totale ». Et quand je dis le mot « reconnaissance », je vous pose la question, à quoi ça vous fait penser? Alors, j'ai une petite vidéo ici qu'on va lancer dans quelques secondes. Mais vous savez, moi, lorsque je pense au mot « reconnaissance », je pense à ma grand-mère, en fait, hein, qui est décédée pendant la pandémie. Elle frisait le 100 ans, là, elle l'a presque fait. Et pour moi, ma grand-mère, ça a été comme une deuxième mère pour moi. Et ma grand-mère, là, elle avait une reconnaissance incroyable. Est-ce qu'on peut faire jouer la vidéo, s'il vous plaît? C'est elle qui joue le drum en arrière, là. Elle a 99 ans là-dessus. Elle pétait le feu. C'est beau. Merci, mon frère. Ma grand-mère, c'était une personne inspirante. Il n'y a rien qu'elle ne faisait pas. Et puis, c'est, pour moi, c'était un modèle de vie. Vous savez, elle a vécu tellement des épreuves dans sa vie. Son mari était dépendant à l'alcool, il était violent. La bouteille va finir par l'emporter, il va mourir à 55 ans. Puis, elle va élever pratiquement toute seule 11 enfants dans la misère, dans la pauvreté. Mais vous savez, elle aurait pu devenir la personne la plus grincheuse du monde. Mais elle n'était pas comme ça, ma grand-mère. Ma grand-mère, elle dégageait de la joie dans son entourage. Elle avait toujours des projets. Elle jouait de la musique là, dans les symphonies. Vous savez, elle faisait de l'artisanat. Et tu allais la voir, puis elle riait, puis elle blaguait. Elle était super drôle, ma grand-mère. Puis elle nous encourageait. Elle avait toujours des paroles positives. Jamais une parole négative qui sortait de sa bouche. Et vous savez, la seule façon que j'ai réussi à expliquer son attitude inspirante, c'est qu'elle avait une relation avec Jésus et puis qu'elle vivait à chaque jour étant reconnaissante. Puis elle mettait toujours ses yeux sur les bénédictions que Dieu lui donnait. Même lorsqu'elle parlait de son mari, c'était toujours à propos des beaux moments qu'elle avait passés avec elle. Et puis, voilà, elle parlait de ses enfants, elle parlait de ses projets, elle parlait de son art, elle parlait de sa musique. Et puis, et véritablement, la reconnaissance peut donner le ton à ta vie. Ça change tout. Elle peut te mener à vivre des vies, une vie inspirante, passionnante, même dans le pire des circonstances. Est-ce que tu es une personne reconnaissante? En fait, c'est quoi exactement que la reconnaissance peut produire en nous? Je pense qu'il y a beaucoup de choses. Mais il y a une chose en particulier que je voulais qu'on puisse creuser ensemble aujourd'hui. Il y a une chose que la reconnaissance produit en nous. Et puis, donc, je veux qu'on regarde à la reconnaissance ce matin, mais sous un axe vraiment très précis. Et pour ce faire, on va regarder ici à notre passage. La scène se passe ici après le baptême de Jésus. Et puis, Jésus commence à réunir des disciples auprès de lui. Et puis, il délivre un démoniaque. Et puis, on voit au verset 29 comment Jésus se rend ensuite à la maison de Simon et d'André. Et puis là, en fait, il se trouvait la belle-mère de Pierre, de Simon, qui était malade, qui avait une fièvre. Et puis, vous savez, on ne sait pas beaucoup plus à propos de sa situation de santé, mais vous savez, à l'époque, une fièvre, ce n'était pas quelque chose de banal. Et les gens, parfois, ils pouvaient mourir même de la fièvre. Ce qui importe ici, c'est que Jésus s'approche. Et puis, ça dit, il la fit lever en lui prenant la main, et en l'instant, la fièvre la quitta. Alléluia! On assiste ici là, à une guérison physique. Imaginez-vous que tu es sur ton lit, tu ne sais pas si tu vas mourir, tu ne sais pas si tu vas passer à travers, et puis Jésus passe, et puis il te guérit complètement de ta maladie. Mais moi, je pense qu'il y a peut-être même quelque chose de plus important qui se passe dans ce passage ici. Hein, ce passage, ça dit que Jésus la fit lever. Ce qui est intéressant ici, c'est que le mot grec, hein, c'est le mot « egairo » qui est le même mot qui est utilisé dans Marc 16, 6. Mais cette fois, ça dit « vous chercherez Jésus de Nazareth ». Il a ressuscité. Et puis les commentaires ici, ils pensent que c'est peut-être, en utilisant ce mot ici, que Marc est peut-être en train de faire un petit clin d'œil à la résurrection de Jésus-Christ lui-même. C'est comme si Marc est en train ici de donner un petit clin d'œil pour nous indiquer que c'est peut-être le moment même du salut de cette femme-là. Que non seulement que cette femme aurait été guérie cette journée-là, mais qu'elle aurait été sauvée. Jésus nous tend la main à chaque jour. Jésus nous tend la main. Jésus nous tend la main pour nous sauver et pour nous guérir. Alléluia. Sache que Jésus te tend la main aujourd'hui pour te faire lever. D'une part, il veut te sauver. Il veut sauver ton âme. Il veut te faire entrer dans une relation personnelle avec lui. Il veut pardonner ton péché. Il veut t'introduire dans une relation. Mais non seulement Jésus veut te sauver, mais il veut aussi te guérir. Et lorsque Jésus nous sauve, il veut aussi commencer à transformer différents aspects de notre vie. Et lorsqu'on accepte Jésus dans notre vie, il y a comme le déclenchement d'une nouvelle dynamique de possibilités dans notre vie. Alléluia! Jésus veut transformer les différents aspects de notre vie. Il veut agir dans nos finances. Il veut agir dans notre santé. Il veut agir dans les différentes facettes de notre vie. Comme on l'a vu hier, ça ne veut pas dire que ça va venir parfait sur cette terre. Il va avoir des prières non répondues dans notre vie aussi. Mais Dieu est quand même à l'œuvre dans notre vie. Dieu agit, Dieu il fait tout ça. Peut-être que tu es ici, tu dis, oui, le Seigneur il a fait ça pour moi. Jésus, il m'a sauvé. Jésus, il m'a guéri. Jésus, là, il a réparé des choses dans ma vie. Est-ce que tu es reconnaissant? Moi, en tout cas, Dieu a fait beaucoup de choses dans ma vie. Je suis tellement reconnaissant. J'ai eu la chance de grandir sous les bancs de l'église, à faire des dessins. 4 fois par semaine, on allait à l'église, j'étais en dessous des bancs. J'ai grandi dans un milieu familial qui aimait Jésus, qui était uni. Dieu m'a donné des beaux cadeaux dans ma vie. J'ai pu connaître Jésus alors que j'étais très jeune. Peut-être que toi, c'est d'autres choses que Jésus a fait pour toi. Peut-être qu'il t'a guéri des anxiétés. Qu'est-ce que Jésus a fait pour toi? Et de quelle façon es-tu reconnaissant aujourd'hui? J'ai bien demandé, de quelle façon es-tu reconnaissant aujourd'hui? Parce que dans l'histoire de la belle-mère de Pierre, sa reconnaissance va s'exprimer d'une façon très précise. Ça dit au verset 31, ça dit, « À l'instant, la fièvre la quitta, puis elle le servit. » Et la reconnaissance de cette femme va s'exprimer sous un axe très précis qui est le service. Et tout ce petit récit ici de 5 versets peut sembler tellement négligeable. Pourtant, cette femme va capter quelque chose de fondamental ici que les disciples, les 12, eux, ils ne vont pas réussir à capter pendant la majorité de l'Évangile. Le service. Le service. Les disciples ont de la difficulté à comprendre dans l'Évangile de Marc. Ils ont de la difficulté, en fait, dans Marc 1, Jésus, il commence à choisir individuellement ses disciples et puis il veut leur enseigner les bases du royaume. Mais malgré tout ça, les disciples ont de la difficulté à comprendre la nature du royaume et ont de la difficulté à comprendre exactement qu'est-ce qui était attendu d'eux. Et ça va prendre 8 chapitres dans l'Évangile de Marc pour que les disciples commencent à comprendre finalement que Jésus est le Messie. Mais eux, quand Pierre dit « Tu es le Messie », Pierre, dans sa tête, lui, il s'imaginait que le Messie allait venir comme un grand guerrier, un grand leader politique qui allait comme démarrer une grande révolution sur la terre. Il croyait que le Messie allait venir comme un grand guerrier puis qu'il allait rétablir la nation d'Israël, qu'elle a jugé les nations, que ça allait être un moment éclatant, ça allait être un moment, un gros boom, que la puissance de Dieu allait se manifester, ça allait être triomphal, et que eux, les disciples, allaient régner aux côtés de ce Messie-là dans toute sa gloire. C'était ça que les disciples s'imaginaient. Ce qu'ils n'avaient pas compris, en fait, c'est que le Messie allait venir deux fois. Et tout le boom, la guerre, et puis le rétablissement de la nation d'Israël, ça c'est pour la deuxième fois. Ça c'est quand Jésus va revenir à la fin des temps. C'est en ce moment que toutes les choses vont être rendues parfaites, que nous allons régner avec Jésus dans toute sa gloire sur cette terre, que la méchanceté sera effacée, que tous seront guéris de leurs maladies, de leurs souffrances. Mes chers amis, lors de sa première venue, Jésus n'est pas venu de façon glorieuse. Jésus n'est pas venu de façon éclatante. Il n'est pas venu sous l'effet d'un boom. Il est venu en qualité de serviteur. Il est venu pour nous servir, pour qu'à travers ses souffrances, qu'il puisse ouvrir un royaume spirituel, invisible, humble, mais qui est ouvert à tous. Un royaume dans lequel nous pouvons pénétrer afin d'être épargné du jugement lors du second retour de Jésus. Jésus est venu pour se faire serviteur afin de nous intégrer dans son royaume. Mais les disciples ne veulent pas de cette humiliation du Christ. Eux, ils veulent le boom. Et eux, ils veulent un Messie qui va venir juger les nations, établir sa gloire sur cette terre. Ils veulent eux aussi participer dans la grandeur de ce royaume. Et puis Pierre, quand Pierre va dire, tu es le Messie, Jésus, oui, dit Pierre, mais je dois souffrir. Pierre, il n'est pas content avec ça, il dit, Jésus, arrête-moi ça, ces histoires-là. Hein? Non, le Messie, c'est un Messie glorieux, le Messie, il est venu pour conquérir. Et puis Pierre, il commence à chicaner Jésus comme ça. Et qu'est-ce que Jésus répond à Pierre? Arrière de moi, Satan! Arrière de moi, Satan, je suis venu pour souffrir. Pierre, rentre ça dans ta tête. Wow! Jean et Jacques, ils veulent être assis aux côtés de Jésus. Ils veulent régner avec Jésus. Ils veulent être dans la gloire. Les disciples, eux, ils se chicanent pour savoir qui est le plus grand. Ils pensent que c'est ça être un disciple de Jésus. Ils pensent que c'est ça être un croyant. C'est de participer dans la gloire de Jésus. Et Jésus les ramène toujours sur la terre. Que le premier soit le dernier. Soyez comme un petit enfant. Le royaume de Dieu, c'est à propos de se faire un serviteur. Sur quoi est-ce que tu mets l'accent dans ta vie chrétienne? Est-ce que pour toi, la vie chrétienne, c'est avant tout de recevoir les bénédictions du royaume, de prendre part à la gloire de Dieu? Ou est-ce que ton focus, c'est de donner, de te rendre serviteur de ce royaume? Bien sûr, la Bible nous enseigne qu'il y a des belles choses pour nous aujourd'hui et que Dieu veut faire éclater sa gloire dans notre vie. Et on le croit, tout n'est pas réservé pour la deuxième venue. Dieu nous donne des prémices, il nous donne des petites étincelles pour nous garder encouragés. Mais est-ce que c'est ça le focus de la vie chrétienne? Est-ce que c'est le focus, c'est de recevoir? Oui, Dieu nous appelle à rechercher, d'attendre et de s'attendre à des bénédictions et tout ça, puis on va recevoir de Dieu. Mais est-ce que c'est ça le focus qui devrait être dans notre marche chrétienne? Jésus semble plutôt indiquer le contraire. La première disposition du croyant, c'est celle d'un serviteur. D'un serviteur. Nous vivons pour servir Dieu. Nous vivons pour lui donner notre vie. Vous savez, on vit tellement dans une société de consommation. On est chrétien. Pourquoi? En vue de ce que Dieu va nous donner toujours. On s'imagine pratiquement que Dieu existe pour nous. Mais non, frères et sœurs, nous existons pour Dieu. Nous existons pour servir Dieu. Nous sommes ses serviteurs. Il n'est pas notre serviteur. Nous sommes son serviteur. Et Jésus, il dit, si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ouch! C'est ça aussi la vie chrétienne. Mais comment est-ce que je peux y arriver? Vous savez, c'est tellement contre-intuitif d'être un serviteur. Mais pour la belle-mère de Pierre, dans ce passage ici, ça s'est fait si naturellement. La phrase est si courte. Hein? Jésus l'a guérie et elle se lève et le sert. Une petite phrase, hein? Tellement petit, tellement peu de mots, mais tellement avec du punch quand tu y penses. Tellement puissant. Il y a un lien de cause à effet dans cette phrase ici. Jésus l'a guéri spirituellement et physiquement et conséquemment, en tant que résultat, elle se lève et le sert. Autrement dit, c'est sa reconnaissance pour ce Jésus qui venait de la guérir, de la sauver, qui la propulse vers le service. Wow! Peut-être que tu es ici, tu dis, moi je ne sais pas, là, j'ai pas vraiment le goût de servir, j'ai toutes sortes de choses à faire, j'ai toutes sortes de préoccupations, j'ai tellement de choses à faire. Comment est-ce que je peux arriver à servir? Par la reconnaissance. Toutes les bénédictions que Dieu t'a données, mets-les devant tes yeux, compte-les, et puis, vous savez quoi, si tu es reconnaissant, c'est ça qui va te propulser vers le service. C'est ça qui va te donner le vent dans les voiles. Le plus que nous sommes reconnaissants, le plus nous voulons servir, non pas par contrainte, mais par volonté, de bon cœur. Alléluia. Je me souviens quand j'étais pasteur de jeunesse dans la région de Beresford, il y a une famille de l'Église qui m'ont accueilli dans leur maison. Ils me chargeaient pratiquement rien, là. Et puis, ils ont été tellement bons. Ils ont fait ça pendant des années envers moi. Et puis un jour, le gars, il m'appelle, il dit, « David, il dit, j'ai une faveur à te demander. » Il dit, je veux que tu prennes, il y avait des homards dans un congélateur, il met tout ça dans un cooler, là, puis viens m'amener ça, là, je suis à telle adresse, j'ai vraiment besoin de ton aide. Et j'ai dit, il n'y a vraiment pas de problème. Hein? Et j'ai fait ça, mon ami, là, ça a pris 30 minutes, je t'ai rendu, j'y ai tout apporté ça. Pourquoi? Pas parce que je pensais que je pouvais lui repayer tout ce qu'il avait fait pour moi, mais je me dis, ça, c'est ma chance. Là. C'est ma chance de lui démontrer ma reconnaissance. Alléluia. Quand nous sommes reconnaissants, nous voulons servir. Et ça vient d'un bon cœur. Est-ce que tu es réellement reconnaissant pour tout ce que Dieu a fait pour toi? Dieu t'appelle à le servir. Dieu t'appelle à le servir, d'être motivé par la reconnaissance. Et je tiens ici à souligner que servir Dieu, ça l'implique aussi de servir les autres personnes autour de toi, de servir tes prochains. Ça me rappelle l'histoire justement du jeune homme riche qui un jour a demandé à Jésus quel est le plus grand commandement. Et Jésus dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aimer Dieu, c'est d'aimer ton prochain. De servir Dieu, c'est de servir ton prochain. Vous savez, dernièrement, j'ai appris qu'un des pasteurs semi-retraité dans l'église où je suis, que finalement, il a déjà donné un discours à l'ONU. Imaginez, en fait, tout l'honneur de servir de cette façon-là, de donner un discours à l'ONU. Et vous savez, Dieu a un projet pour nous sur cette terre. Dieu, chacun de nous, Dieu a un projet sur cette terre. Dieu, il veut restaurer toute la création à lui. Ça, c'est son projet. C'est le projet le plus honorable qu'il ne puisse pas avoir. Et Dieu veut que nous participions à ça. Il n'y a pas de plus grand honneur pour nous de servir une si grande cause. Alléluia! C'est comme si on serait appelé pour donner un discours à l'ONU. Alléluia! Et pour ça, Dieu a donné à chacun d'entre nous des dons, des capacités pour le servir, des dons spirituels, des habiletés spécifiques à chacun de nous. Et chacun de nous, nous avons reçu des dons différents, de sorte que nos dons se complètent mutuellement. Dieu t'a appelé à le servir dans ta communauté, dans ton église. Quelle est ta place? Et si tu es reconnaissant aujourd'hui, cette reconnaissance va t'amener à vouloir trouver ta place dans le service. Et si tu as besoin de des conseils pour découvrir tes dons, de découvrir ta place, tu peux parler avec tes pasteurs et ils vont se faire un plaisir. Ce matin, il y avait une annonce pour le ministère des enfants. Il y a toutes sortes de besoins dans l'Église. Il y a toutes sortes de besoins dans la communauté. Mais vous savez, il y a un passage ici dans Éphésiens 4, 11. Ça dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Et ce passage nous parle ici d'une catégorie, de serviteurs très spécifiques. Et c'est ceux qui sont appelés, en fait, à diriger l'Église, à préparer l'Église pour l'œuvre du Seigneur. On est tous appelés à servir dans l'Église, mais il y a des gens qui sont appelés à diriger et qui sont appelés à préparer les croyants. Dieu appelle des gens encore à devenir pasteurs aujourd'hui. Amen. Dieu appelle des gens aujourd'hui à avoir un ministère d'évangéliste, d'avoir des ministères qui sont vraiment là pour développer les croyants, de diriger son Église. Moi, je me souviens, quand j'étais ado, tout le monde voulait devenir pasteur. Aujourd'hui, on les compte sur une main. Hein? On les compte sur une main. On a de la difficulté à trouver des gens qui vont vraiment prendre la relève, des gens qui vont être prêts à s'embarquer dans cette aventure-là du ministère à temps plein. Dans les transitions pastorales, parfois, on a de la difficulté à trouver la relève. On dit que dans notre district ici, au Québec, la moyenne d'âge pour les pasteurs principaux, c'est 59 ans. La relève, où est-ce qu'elle est la relève? Pourtant, Dieu est fidèle et Dieu appelle. Alléluia. Lui, Dieu, il fait sa job. Mais est-ce que nous, on entend cet appel-là? Avons-nous des oreilles? Si c'est toi ce matin, qu'est-ce que tu attends? Vous savez, pour moi, cet appel s'est fait retentir très jeune. Lorsque j'étais même un enfant, Dieu commençait à placer ce désir dans ma vie de le servir. Ce n'était pas une voix, ce n'était pas une prophétie, c'était une conviction dans mon cœur que Dieu avait déposée. Et puis, ça s'est commencé à se concrétiser davantage quand j'étais adolescent. L'appel de diriger une église. Alléluia. Un désir d'enseigner. Si on revient à notre histoire ici, on voit comment les disciples ont eu de la difficulté. On a vu comment les disciples ont de la difficulté à saisir la nature du royaume en tant que soi. Ils ont de difficulté à saisir, en fait, ce que Dieu attendait d'eux. Ils s'attendaient à un grand Messie qui allait venir avec un gros boom, puis qu'eux, ils allaient régner dans la gloire du Messie. Mais finalement, Jésus leur annonce, « Non, attends une minute, C'est pas ça, là. Vous êtes appelés à être des serviteurs. Les disciples, en, finalement, pendant l'Évangile, ils comprennent absolument rien. Hein? Et on a lu un verset la semaine hier, hein, où Jésus, il réprimande ses disciples. Dans Marc 8, 17, ça dit, « Êtes-vous encore sans intelligence? Et ne comprenez-vous pas? Avez-vous le cœur endurci? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? Et n'avez-vous point de mémoire? » Les disciples, ils ne comprenaient pas la nature du royaume. Ils ne comprenaient pas que Dieu les appelait à agir en tant que serviteurs. Ça les dépassait. Jésus dit, « Ben là, come on, là! » Les disciples sont dans le champ pendant tout l'Évangile. Mais il y a une personne dans l'Évangile qui a tout compris. Et elle a compris très rapidement, dès le premier chapitre de Marc. Alors que Jésus n'avait même pas eu le temps encore d'expliquer la nature du royaume qu'il était venu établir. La belle-mère, elle l'avait compris. La belle-mère de Pierre avait compris. À l'instant, la fièvre la quitta et elle servit. C'est une petite vite. Hein? Parle de ça hier. Moi, ma femme avale les choses beaucoup plus vite que moi. Hein? Des fois, je suis un petit peu épais, moi. Moi, je suis genre épais, moi. Belle, elle voit ça tout de suite. Elle est très intuitive. Hein? Les disciples, là, ils étaient épais là, dans l'Évangile. Mais la femme, là, elle a catché. Et c'est à elle que revient l'honneur d'avoir compris en première. Vous savez quoi? C'était une femme. Non, c'est vrai. C'était une femme. Ce que je veux dire, en fait, c'est que à l'époque, là, les femmes n'avaient pas de voix. Mais c'est elle qui a compris la première. Quand Jésus, il va mourir, à qui est-ce qu'il va apparaître en premier? Aux femmes. Ils sont vite, les femmes. Hein? Ils sont vite. Hey. Elle n'a pas le choix, les disciples, ils ont dit, ils avaient abandonné Jésus, puis c'était sauvé. C'est aux femmes que Jésus va apparaître. C'est les femmes qui vont être sur le tableau d'honneur dans l'Évangile de Marc. À une époque où ils étaient dénigrés, tout à coup, ils sont présentés comme étant exemplaires, comme étant honorés, de vraies servantes. Dans Marc chapitre 8, verset 1 à 3, on voit comment il y a des femmes qui suivaient Jésus. À une époque où les femmes n'étaient pas permises de suivre les rabbins, mais il y avait des femmes qui accompagnaient Jésus. Et Jésus lui avait créé un espace autour de lui. Chers amis, on sait très bien que Dieu appelle les hommes. Mais ce qu'il faut savoir ce matin, c'est que Dieu appelle les femmes aussi. Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu appelle tous les croyants, peu importe la classe sociale. Peu importe l'âge, peu importe le sexe, les gens que la société veut dénigrer. Et ça s'appelle, ça inclut même l'appel à diriger l'Église du Seigneur. Quelle est ton excuse aujourd'hui? Oh, mais je suis une femme! Les femmes ont été les premières dans Marc. Dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sous toute chair. Mes fils et mes filles prophétiseront. On pourrait parler des femmes, des filles de Philippe qui étaient des prophétesses. On pourrait parler de Priscille et d'Aquila, avec Priscille qui était une femme de prestige. On pourrait parler de Junia dans Romains 16, 7 qui était un apôtre. Vous savez quoi, au début du mouvement pentecôtiste moderne, au début du 20e siècle, un tiers des pasteurs pentecôtistes étaient des femmes. Et aujourd'hui, les assemblées de Pentecôte du Canada forment, accueille et intègre des femmes dans des rôles de pasteur. Et ça, c'est basé sur une interprétation rigoureuse des Écritures. OK? Peut-être que tu vas dire, ben moi, c'est mon excuse, c'est pas que je suis une femme. Peut-être que tu vas dire, ben moi, je suis pas assez large. Ou peut-être que tu vas dire, ben moi, je sais pas. Toutes sortes d'excuses. Moi, c'est ben moi, je suis plus le style introverti, moi. Je suis plus de style à moi. Je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup. C'est quoi ton blocage? C'est quoi ton excuse? comme Moïse. Oh, mais Seigneur, je ne sais pas comment parler. C'est quoi ton excuse? Je me souviens quand j'ai terminé le secondaire, puis hein, je partage ailleurs comment je n'ai pas eu le courage finalement d'aller au collège biblique pour réaliser cet appel-là. Mais Dieu va orchestrer finalement des événements dans ma vie, notamment la perte d'un ami dans un accident de voiture. Et puis, je me suis dit, à un moment donné, je me suis dit, écoute là, faut que j'obéisse le Seigneur aujourd'hui. Je ne peux pas vivre comme ça en dehors du plan de Dieu. Et puis, voilà. Et quand j'ai accepté l'appel de Dieu, là, il a enlevé mes blocages. Il a enlevé mes blocages, il a enlevé cette gêne, il a enlevé cette peur, il a enlevé toutes ces choses-là. Et la réalité, c'est que quand Dieu appelle, il équipe tout simplement. Amen. Ça ne fait pas de différence, tu es un homme, tu es une femme. Dieu, s'il t'appelle, il va t'équiper pour faire l'œuvre du Seigneur. Qu'est-ce qui est ton excuse aujourd'hui? J'ai un petit cadeau à vous donner aujourd'hui. Puis les placés, ils vont commencer à vous les distribuer. Un par couple, je ne sais pas si j'en ai pour tout le monde. Et puis je vais vous expliquer en fait c'est quoi un peu plus tard, OK? Mais vous savez, après l'appel vient la formation. Amen? Après l'appel vient la formation. Oui, Dieu donne des dons. Oui, Dieu, il donne la puissance du Saint-Esprit, mais cela n'enlève pas l'importance de se laisser être formé. Et tant que nous allons être sur cette terre, il va y avoir des choses à apprendre. Et puis, le type d'intensité de formation, ça va dépendre justement du type de ministère que Dieu va déposer sur ta vie aussi. Et puis, voilà, on voit comment Jésus il va recueillir auprès de lui 12 disciples. Et ses disciples vont recevoir une formation particulière. Ils vont passer 3 ans et demi avec Jésus. Ils vont faire tout leur collège biblique, là. 3 ans et demi auprès de Jésus pour être formés. Et quand Dieu t'appelle, c'est important toi aussi de te laisser être formé. Et ça peut vouloir dire différentes choses dans ta vie. Hein? On a passé une belle journée hier. Qu'est-ce que ça veut dire être formé? Peut-être que toi, ça veut dire de venir à des formations qui se donnent à l'Église. Ça peut-être dire de venir rencontrer ton pasteur pour recevoir une formation de lui. Peut-être que Dieu t'appelle à un ministère plus d'enseignement. Moi, je dirais, si Dieu t'appelle à un ministère d'enseignement, c'est important de suivre des études bibliques comme qu'on offre à l'IBQ. Comment est-ce que Dieu veut t'amener à être formé dans ta vie? C'est important que tu aies une bonne doctrine. Le plus qu'on enseigne, les gens vont se nourrir de ce que tu vas enseigner. Assure-toi d'être bien formé. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc, pour conclure, lorsque Jésus a rencontré ses disciples avant de mourir, il avait la chance de leur donner un dernier message. Un dernier message. Il avait le choix de leur donner un dernier message. Et ça allait être la chose qu'il avait les laisser avec. Et voilà, si toi tu aurais la chance de dire la dernière chose avant que tu allais mourir, ce serait quoi la chose la plus importante que tu dirais? Et puis Jésus, son dernier message, il a décidé de le donner à travers d'un geste symbolique qui venait en quelque sorte résumer toute sa vie, qui allait donner une orientation claire aux disciples alors qu'il allait partir. Et il l'a fait avec un accessoire. Jésus aurait pu sortir une épée. Il dit, hey, je suis le grand guerrier, vous êtes des vainqueurs aussi, allez conquérir tout le monde pour moi. Non, ce n'est pas ça que Jésus a fait. Il aurait pu donner une couronne. Il dit, hey, les amis, je suis le roi des rois, allez régner sur cette terre, vous aussi. Il aurait pu leur donner une pelle pour leur dire, hey, vous pouvez maintenant bouger les montagnes. Non, son accessoire qui va sortir en fait. C'est une lingette, un bassin, un linge, une petite lingette comme ça, avec rien d'attrayant, peut-être un peu sale, un peu magané. Et Jésus, en fait, il se met aux pieds des disciples, comme ça, et il commence à leur laver les pieds. Il dit, ici, une chose que vous devez comprendre, là, c'est ce que je suis en train de faire tout de suite. Vous êtes appelé à servir. La vie chrétienne, c'est à propos de servir, de vous rendre le serviteur de tous. Est-ce que cette lingette résume ta vie aujourd'hui? J'ai tellement touché hier quand pasteur David partageait que toute sa vie, un héritage qu'il a reçu de son père, c'est le service. Dieu nous appelle à servir. Dieu t'appelle aujourd'hui. Est-ce que tu es prêt à le recevoir? Et je t'invite cette semaine de prendre ça puis de le garder dans ta poche. Et à chaque fois que tu mets dans ta main ta poche et puis tu mets ta main sur la lingette, tu dis, fais une petite prière, Seigneur. Aide-moi à être un serviteur en ce moment même. Et puis ouvre tes yeux et commence à regarder autour de toi. Seigneur, y a-tu un besoin autour de moi tout de suite là, même au travail, que je peux combler? Peut-être une parole d'encouragement. Peut-être une faveur que tu vas faire à quelqu'un. Seigneur, as-tu quelque chose que je peux faire pour ton église cette semaine? As-tu quelque chose que je peux faire pour ma communauté? Qu'est-ce qui est l'appel, Seigneur, que tu veux que je développe dans ma vie? Dans laquelle tu veux que je croise? Je grandisse. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Je vais inviter l'équipe de louange à s'avancer. Alléluia. Gloire au Seigneur. On va faire une prière ce matin et puis... On va juste faire un petit appel. Je vous invite à ne pas partir ce matin. Comme le pasteur David a dit, il y a une annonce importante à faire aussi. Donc, je vous encourage vraiment de rester. Et puis, mais j'aurais aimé qu'on fasse juste, on prenne quelques minutes. Juste fermons les yeux. Seigneur Dieu, je te remercie ce matin pour ce message que tu nous donnes. Que tu nous rappelles, Seigneur, que tu nous as sauvés, Seigneur. Et Seigneur, que tu nous appelles à vivre une vie de reconnaissance, Seigneur Jésus. Seigneur, je te prie que tu puisses vraiment nous toucher en ce moment même. Si nous sommes devenus ingrats par éternel, je te prie que tu puisses briser nos cœurs en ce moment. Que toutes nos bénédictions puissent être devant nos yeux, que nous puissions les compter, Seigneur, réaliser à quel point nous sommes bénis, Seigneur, de sortir, Seigneur, de cette mentalité de j'en veux plus, j'en veux plus, j'en veux plus. Puis oui, tu nous appelles à demander, tu nous appelles à nous attendre, mais ça ne doit pas, Seigneur, ça ne doit pas devenir notre focus, Seigneur Dieu. Tu veux, Seigneur, qu'on soit à propos, Seigneur, de vivre une vie de reconnaissance et de te donner, Seigneur. Fais de moi un serviteur, Jésus. Non simplement dans les choses qui sont grandes, Seigneur Dieu, mais dans les choses qui sont petites, Père éternel. Dans les choses de chaque jour, envers mon épouse, mes enfants, Seigneur Dieu, à chaque moment de ma vie. Seigneur, s'il y a des gens ce matin que tu touches, peut-être pour une implication à l'Église, Seigneur Dieu, que tu puisses les faire réaliser l'importance de la chose, puis tu puisses enlever tous les blocages qui puissent être là, et qu'on puisse apprendre à dire oui dans la vie. Il y a des temps où il faut dire non, mais il y a des moments où il faut dire oui. Des fois, on devient trop bon à dire non, Seigneur. Mais Dieu, tu nous appelles aussi à dire oui. Oh, Seigneur. Seigneur, peut-être des gens ici ce matin que tu es en train de faire réaliser, Seigneur. Que tu veux que non seulement ils puissent servir, mais qu'ils puissent, peut-être qu'ils sont appelés à diriger. Peut-être des pasteurs ici, et peut-être des évangélistes, et peut-être des enseignants, Père éternel. Seigneur, tu appelles aujourd'hui. Enlève tous les blocages. Je suis trop jeune, je suis trop vieux, je suis un homme, je suis une femme. Seigneur, enlève tout ça, Seigneur. On veut juste écouter ta voix, puis l'écouter, puis juste obéir, Père éternel. Puis laisser le reste entre tes mains. Seigneur, je te remercie, Seigneur, que tu es là. On te dit oui ce matin. Et on va juste prendre quelques minutes ce matin. Si ça te touche d'une façon particulière, tu peux t'avancer. On va prier avec vous. Les pasteurs aussi de l'Église vont prier avec vous. Et puis, juste prends ta liberté. Amen.